Ici Raymond Perron, bien le bonjour à tous et à toutes, et bien sûr, considérez-vous comme les bienvenus à cette autre édition de l'émission Paroles du matin, comme faire se doit. Alors, vous savez certainement de quoi nous allons traiter ce matin, hein, puisque nous sommes déjà depuis un certain temps dans l'Épître de Paul aux Galates. Et bien sûr, le thème de l'Épître de Paul aux Galates, c'est le salut par la foi seule, par la grâce seule, en Christ seul. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé pour des bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres n'ajoutent rien, n'ont aucune contribution de quelque sorte que ce puisse être à notre justification. Ce matin, nous allons parler d'un sujet particulier parce que nous allons traiter de la folie des Galates. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'apôtre Paul lui-même qui les traite ainsi d'insensés en raison de leur position théologique, là, eu égard au salut. Alors, nous irons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, les versets 1 à 9. Et Paul ne fait pas dans la dentelle, comme vous allez voir. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Voilà un autre texte, on ne peut plus clair, sur ce sujet du salut par la foi seule, de la justification par la foi seule. Alors, nous avons vu dans le cours des chapitres 1 et 2 que Paul avait défendu son ministère. Hein? Il avait défendu l'origine divine de sa mission apostolique et aussi de son message. Ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va revenir sur l'infidélité des Galates face à l'Évangile. Une infidélité qui était certainement conséquente là, à l'influence corruptrice des faux enseignants qui s'était infiltré parmi eux hein, et qu'on appelle les judaïsants. Et l'apôtre, comme je l'ai dit tantôt, ne fait pas dans la dentelle. En verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens ». Ben, le mot grec pour « dépourvu de sens », c'est « anointos hein. ».« Anointos », qui veut dire « sans intelligence »,« fou ». D'ailleurs, la version « tob » traduit par « stupide », la version « Darby » par « insensé » et la version anglaise par « oh foolish Galatians ». Et Paul va récidiver au verset 3. « Êtes-vous tellement dépourvu de sens ?» Alors, cette attitude-là des Galates, elle est tellement étonnante que Paul va même jusqu'à se demander si, en quelque part, ils n'ont pas été envoûtés, ensorcelés. Verset 1 toujours, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, baskaino ?» Le verbe « baskaino » veut dire effectivement « ensorcelé, envoûté ». C'est comme si quelqu'un leur avait jeté un sort, voyez-vous. Bien sûr que sa question est rhétorique. Paul sait fort bien qu'il s'agit là de l'activité des faux docteurs. Et l'Église contemporaine, ne nous méprenons pas, hein, n'est aucunement immunisée contre les faux enseignants et leur doctrine toxique. Donc, le questionnement de Paul vient du fait que ces Galates se sont laissés littéralement séduire par l'enseignement des judaïsants. Ils avaient d'abord embrassé la foi, à savoir que le pécheur est justifié par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul, mais voilà que maintenant, ils ont endossé la pensée que la circoncision et les œuvres sont aussi nécessaires à la justification. L'essence de l'argument de Paul, c'est que cette nouvelle position-là, elle est rien de moins que contraire à l'Évangile, et la raison de son étonnement face à leur folie nous est mentionné au verset 2. « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Voyez-vous, par la prédication, Jésus-Christ vous a été peint dans tout ce qu'il a opéré par son sacrifice à la croix, un sacrifice unique et pleinement suffisant. D'ailleurs, la force du temps du verbe dans l'original grec, c'est un participe parfait, c'est un temps que nous n'avons pas en français, c'est que l'œuvre du Christ sur la croix est une œuvre complète et que les bénéfices de sa crucifixion demeurent à jamais. C'est ainsi que les pécheurs sont justifiés devant Dieu et par Dieu, non pas en raison de leurs œuvres, mais bien en raison de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà bien l'Évangile. On est très loin ici d'un discours ou d'un enseignement général sur l'histoire de Jésus, mais on est en face d'une proclamation, la proclamation de Jésus-Christ crucifié. L'apôtre dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23-24, « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Et il va reprendre dans, au chapitre 2, versets 1 et 2 de cette même épître aux Corinthiens, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Mais voilà. Hein? Si les Galates avaient saisi l'évangile du Christ crucifié, c'est-à-dire s'ils avaient compris qu'à la croix, le Christ a pleinement accompli tout ce qui est nécessaire pour le salut, ben, ils auraient réalisé que tout ce qui leur restait à faire était de recevoir cette bonne nouvelle-là par la foi. Voyez-vous, oser vouloir y ajouter quoi que ce soit représente une offense, représente une négation, représente un déni en quelque sorte. Alors, Paul va donc y aller d'une dénonciation du non-sens des Galates. Hein? C'est ce qu'il dit, « Êtes-vous dépourvus de sens ?» Et ces Galates-là, pour Paul, auraient dû résister à la séduction des judaïsants. Il savait fort bien que l'Évangile est reçu par la foi. Cela leur avait été pleinement et clairement enseigné, par la foi seule, puisque c'est là leur propre expérience. Hein? On l'a vu au verset 2 à 5 de ce même chapitre, et que c'est aussi l'enseignement clair de l'Écriture, versets 6 à 9, toujours du chapitre 3. Et c'est maintenant ce que nous allons voir plus en détail. Alors, l'apôtre commence par l'argument à partir de leur propre expérience dans les versets 2 à 5. Verset 2 d'abord. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » C'est une bonne question, hein? « Est-ce que vous avez reçu l'Esprit parce que vous avez fait tellement de bonnes œuvres que l'Esprit ne pouvait plus résister et s'est dit « Je vais habiter chez eux. » Ou est-ce par la prédication de la foi? » Paul prend comme acquis, bien sûr, que ces Galates-là ont reçu l'Esprit. Sa question n'est donc pas s'ils l'ont reçu, mais plutôt comment ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu par les œuvres ou ils l'ont reçu par la foi? Et c'est ainsi que leur vie chrétienne a commencé. Verset 3. « Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Donc, comment ils ont reçu l'Esprit et comment s'est amorcée leur vie chrétienne? Quelle part ont-ils pris dans le processus? Aucune part, ils n'ont eu aucune voix au chapitre, ils ont seulement cru. Et c'est d'une importance capitale d'être bien au clair sur ces alternatives que l'apôtre présente en termes de « par les œuvres de la loi » ou « la prédication de la foi ». C'est le grand contraste entre la loi et l'Évangile. Et la différence entre les deux peut s'exprimer ainsi. La loi dit « fais ceci », l'Évangile dit « Christ a tout fait ». La loi exige des œuvres d'accomplissement humain, l'Évangile exhorte à croire l'accomplissement du Christ. En somme, loi et Évangile ne sont rien de moins qu'aux antipodes en ce qui concerne la justification, entendons-nous. Ils ne sont pas deux aspects de la même réalité ou ils ne sont pas non plus deux interprétations du christianisme. en autant que la justification est concernée. Comment quelqu'un a une position de juste devant Dieu, comme le disait Luther, l'établissement de la loi, c'est l'abolition de l'Évangile, rien de moins. Et Paul tape sur le même clou, au verset 5. « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Vous voyez, c'était là donc le fait de leur expérience. Paul s'était présenté en Galatie, il leur avait prêché l'Évangile, il leur avait dépeint selon ses propres propos, n'est-ce pas, le Christ crucifié. Ils avaient cru, ils avaient mis leur foi en Jésus et ils avaient reçu l'Esprit. Ils ne s'étaient pas soumis à la circoncision, non plus qu'obéis à la loi. Ils ont simplement cru. Et Paul d'argumenter, puisqu'il en a été ainsi, puisque ce sont là les faits de votre expérience, c'est ridicule qu'ayant commencé avec l'Esprit, vous vouliez maintenant compléter, ou si vous voulez, vous vouliez améliorer avec la chair, c'est-à-dire par les œuvres, votre justification. Voyez, l'apôtre, ou l'appel de l'apôtre, devrais-je dire, vient sous forme de questions rhétoriques rapides. En fait, il y a 4 questions en tout, permettez-moi de vous les synthétiser. D'abord, il y a une question d'initiation, dans laquelle l'apôtre ramène les Galates au moment de leur conversion. Verset 2, « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi ?» Dans un deuxième temps, il leur présente une question de continuation, verset 3. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et troisièmement, il y a une question de persécution, ce que cela leur a coûté de suivre le Christ, verset 4. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Et quatrièmement, une question de miracle et leur signification pour la vie chrétienne au verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et ça m'amène à mon deuxième point, mon deuxième argument donc, l'argument à partir de l'Écriture sainte. Donc le premier argument, c'est à partir de leur propre expérience. Ici maintenant, c'est l'argument à partir de l'Écriture, à partir des données de l'Ancien Testament. Verset 6. « Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice. » Ah, « imputé » veut dire « mettre au compte de ». Mettre au compte de. L'allusion de Paul à Abraham, c'est un véritable coup de maître à noter. Rappelons-nous que les opposants de Paul en Galatie, les judaïsants, se revendiquaient, eux, d'avoir Moïse comme enseignant. La citation de Paul, ici, vient de Genèse, chapitre 15, verset 6, bien avant Moïse. Laissez-moi vous rappeler les circonstances. Alors, nous avons Abraham, et il était très avancé en âge, et il n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui avait promis un fils, Dieu lui avait promis une postérité. Et voilà que Dieu l'amène, Abraham, hors de sa tente, et lui dit, permettez-moi de vous citer les versets 5 et 6 de Genèse 15, « Et après l'avoir conduit dehors, il, Dieu, dit à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et Abraham eut confiance en Dieu. Il crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Hein? Il a mis la justice dans son compte spirituel. Il nous faut considérer attentivement ce qui se produit ici. Premièrement, Dieu fait une promesse à Abraham. La promesse de descendant, elle est littéralement placardée devant les yeux du bonhomme de la même façon que la promesse du pardon des péchés en Christ est placardée devant les yeux des Galates. Deuxièmement, Abraham, nous est-il rapporté, crut, eut confiance en Dieu. Et en dépit de l'improbabilité inhérente de la promesse d'un point de vue humain, écoutez, à l'âge où il était rendu, Abraham s'appuie sur la fidélité de Dieu. Il n'a pas dit « D'accord, Seigneur, je vais faire toutes les œuvres possibles pour mériter cela », mais pas du tout. Non, il s'est abandonné dans la foi à la fidélité de Dieu. Résultat, ben, cela lui fut imputé à justice. Il a été de ce fait considéré comme juste. Il n'a pas été accepté parce qu'il a fait quelque chose de méritoire, ou parce qu'il a été circoncis, ou parce qu'il a observé la loi, ni la circoncision d'ailleurs, non plus que la loi, n'avait encore été donnée à cette époque-là. Mais il a simplement cru, il a reçu cette justification, il a été considéré comme juste aux yeux de Dieu, simplement parce qu'il a cru la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Maintenant, avec cette promesse de Dieu à Abraham, Paul fait intervenir une autre promesse plus ancienne au verset 7 et 9, ou 7 à 9. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? L'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle, euangelion. Donc, Dieu a annoncé d'avance l'évangile à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et ici, l'apôtre fait appel à quelle portion d'Écriture? Genèse, chapitre 12, verset 3. Quelle est donc maintenant cette bénédiction-là? Et comment les nations vont-elles en hériter de la bénédiction promise à Abraham et qui rejaillirait sur les nations? Mais la bénédiction, ce n'est rien de moins que la justification et le moyen par lequel cette bénédiction-là, cette bénédiction par excellence sera reçue, c'est-à-dire la foi. Les judaïsants, eux, insistaient peut-être auprès des convertis galates pour qu'ils se fassent circoncire, afin de devenir fils d'Abraham. Mais Paul vient contredire tout cela en affirmant que les Galates étaient déjà fils d'Abraham, le père de la foi, non par circoncision, mais par la foi. Les versets 7 et 9 affirment sans embâge que les vrais enfants d'Abraham ne sont pas la postérité physique de ce dernier, mais bien sa postérité spirituelle, c'est-à-dire ceux et celles qui ont la foi. Et ça nous amène bien sûr à une conclusion. Pardon. La conclusion de tout cela, elle est relativement simple à tirer, hein. Le salut, la justification, c'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Une nouvelle vie en Christ commence par la foi, continue par la foi, et sera complété par le même moyen, à savoir la foi. C'est dire que l'Évangile est pour les chrétiens tout autant que pour les non-chrétiens. Nous ne pouvons jamais aller plus loin que la bonne nouvelle de la croix et du tombeau vide. C'est ça l'Évangile. On ne peut rien ajouter à la foi comme fondement de notre salut parce que la foi nous unit à Jésus-Christ, voyez-vous. Et étant unis à lui, nous profitons pleinement de tous les bénéfices qu'il nous a acquis, et par sa vie parfaite, et par sa mort expiatoire. C'est dire que l'Évangile, hein, c'est véritablement une bonne nouvelle. Nous ne pouvons jamais aller plus loin que cette bonne nouvelle-là. Les œuvres n'ont aucune part dans l'établissement du fondement du salut. Mais les œuvres, par exemple, sont conséquentes à la foi, comme le sont les signes vitaux pour les vivants. Si quelqu'un vit, il va bouger, il va parler, hein, il va se mouvoir, quoi. Alors ainsi, quelqu'un qui est né spirituellement va de facto manifester des signes vitaux spirituels. La simple pensée qu'on pourrait ajouter quelque chose, qu'on pourrait perfectionner l'œuvre de Dieu en Christ, et cette œuvre-là qui a été appliquée par son Esprit Saint, elle est complètement absurde. C'est pourtant précisément ce qu'enseignaient les judaïsants. Et c'est aussi, encore aujourd'hui, le cœur de l'enseignement de toutes les religions d'œuvre, les religions de mérite. Oh, elles ne nient pas la nécessité de la foi, mais c'est toujours la foi plus. Elles affirment que ce n'est pas suffisant de croire, que nous devons ajouter le glaçage des œuvres pour que le gâteau du salut soit acceptable par Dieu. En d'autres mots, vous devez laisser Moïse terminer ce que le Christ a commencé. Ou, pour dire autrement, vous devez vous-même, par votre obéissance à la loi, finir ce que le Christ a commencé. Vous devez ajouter vos bonnes œuvres à l'œuvre du Christ qui, dans un tel cas, donc, ne serait pas complète, voyez? Alors, la justification. La justification, c'est la doctrine à vivre à chaque moment de notre existence. C'est une doctrine pour les damnés, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Lorsque vient le jour où un homme ou une femme ou un enfant, il n'y a pas d'âge pour le salut, hein, se doit d'admettre son statut de pécheur, pécheur endurci, pécheur dépravé, ne méritant que la juste colère de Dieu, quelle est la seule espérance qui s'offre à cette personne-là? Ben, il y en a une seule, mais c'en est une certaine, hein, venir au Christ par la foi seule. Et la justification, c'est aussi une doctrine pour celui ou celle qui marche dans la vallée du doute. Et ça nous arrive à tous et à toutes. Il y a des jours dans la vie de chaque chrétien où tout semble remis en question. Est-ce la réalité que Dieu m'aime? Est-ce que c'est vrai que Dieu m'aime et qu'il a un plan merveilleux pour ma vie? Hein, ça nous arrive de nous poser cette question-là. Est-ce qu'il se soucie vraiment de moi? Je suis dans les difficultés et j'ai vraiment l'impression que Dieu n'en a absolument aucune considération. Ça nous arrive d'avoir ces doutes-là. Ben, lorsque ces monstrueux doutes montrent leur visage hideux, que fait le croyant? Il revient à la croix. Il revient à la croix où le Christ est mort pour justifier les pécheurs et les garder par la foi seule. Hein? La croix reçue dans la foi assure aussi la persévérance des saints. Hein? C'est un forfait complet. La doctrine de la justification s'adresse aussi à ceux et celles en proie au découragement. Cher ami, est-ce qu'il vous arrive parfois d'être découragé? Hein, oui, même si on est sauvé, c'est pas toujours olé olé, hein? Il nous arrive parfois d'être en proie au découragement. Il arrive parfois que les choses nous paraissent tellement sombres, nous paraissent tellement sans espoir. En fait, il y a des périodes là où on fait face à ce qui nous semble tellement impossible qu'on se demande même si on va pouvoir finir la journée. Et comme j'aime à dire, si on va pouvoir finir le chiffre. Hein? C'est bien pourquoi on a besoin de se prêcher l'Évangile à nous-mêmes, à chaque jour. Bien sûr, c'est un grand privilège que faire appel aux moyens de grâce, hein? Lire la parole, prier, assister aux réunions d'église où la parole est proclamée. On doit vraiment faire tout cela et se prêcher nous-mêmes, l'Évangile à nous-mêmes, à chaque jour. Alors qu'on va au lit, on se dit « Ouais, je sais quel est mon problème fondamental. Je suis un pécheur qui vit dans un monde pécheur, mais j'ai un grand sauveur qui m'aime et qui s'est donné lui-même pour moi. » Voyez, la doctrine de la justification, c'est donc pour chacun, chacune de nous. C'est pour vous qui m'écoutez. Êtes-vous venu au Christ par la foi pour être déclaré juste devant Dieu? Être justifié, c'est effectivement être déclaré juste devant Dieu. Il n'existe pas d'autre moyen de justification. Et rappelons-nous que le contraire de la justification, ce n'est pas la neutralité, hein, ce n'est pas le no man's land. Non, le contraire de la justification, c'est la condamnation. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dira, dans son évangile, au chapitre 3, verset 36, et vous voyez que c'est d'une clarté cristalline également, il n'y a rien à n'y redire. Hein? Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, non pas celui qui croit au Fils et qui fait beaucoup, 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 beaucoup de bonnes œuvres. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Je pense que ça vaut la peine d'être répété. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi est-ce que quelqu'un a la vie éternelle? Parce qu'il croit au Fils, pas parce qu'il fait toutes sortes de bonnes œuvres. Pourquoi est-ce que la colère de Dieu demeure sur quelqu'un? Pas parce qu'il n'arrête pas une seule seconde de faire des mauvaises œuvres, malgré que c'est souvent le cas, mais simplement parce qu'il ne croit pas au Fils, qui est notre justification devant le Père. est-il utile, chers amis, de vous lancer cet appel-là, si ce n'est déjà fait, de venir au Christ Jésus par la foi? Cet appel ainsi lancé vient mettre un terme à l'émission de ce matin qui vous revient. Ah ben oui, elles vont vous revenir à 14h cet après-midi, si Dieu le veut bien, en rediffusion. Et bien sûr, il me reste à vous exprimer ma reconnaissance d'avoir encore été là aujourd'hui, ce matin. C'était très plaisant de vous avoir là. Je vous souhaite une journée bénie, ultra bénie, sur bénie, et vous êtes conviés sans plus de cérémonie, n'est-ce pas? Vous êtes conviés pour la prochaine émission. Alors, à demain, bonne journée et que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa grâce.